Voilà, chers amis, auditeurs, sans plus tarder, nous commençons. Donc, je vous salue comme je l'ai fait tout à l'heure et puis je vous annonce que c'est la dernière fois que nous parlons, en tout cas nous nous retrouvons ensemble pour ce parcours sur l'Esprit Saint que nous avons fait jusqu'ici. Et j'ai choisi donc de braquer les projecteurs sur le thème de l'Esprit Saint nous apprend à lire les signes des temps. Pourquoi? Et on verra quels signes des temps je voudrais exactement que nous regardions de près. Et puis, plus largement, vous avez compris que c'est l'Église qui est en jeu ici, dans sa réponse, la réponse à donner aux défis auxquels elle est confrontée. Donc, la première raison pourquoi j'ai choisi ce thème, c'est quand même que nous avons des baptisés qui sont secoués dans leur identité de baptisés et qui doivent discerner beaucoup de choses dans la société dans laquelle ils vivent. Les conditions même dans lesquelles ils vivent leur foi dans la société ont tellement changé. Et l'Église elle-même, elle est ballottée. Et tout cela fait qu'il faut se demander, est-ce qu'il n'y a que ces choses difficiles qui heurtent, bousculent notre foi, ou alors il y a des appels de Dieu derrière tout cela. C'est cela que j'appelle l'Esprit Saint nous apprend à lire les signes des temps. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite par une prière. On va l'invoquer, cet Esprit Saint, pour qu'il m'assiste et vous assiste aussi, afin que nous fassions une œuvre commune dans ce temps qui nous est réservé. Et je me sers ici de la prière du Viens Esprit Saint, dont du Béni Créateur, l'autre version, la version liturgique. Viens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final dans la joie éternelle, donne la joie éternelle. Amen. Voilà, chers amis, nous commençons donc cette émission. Comme je l'ai intitulé, il dit tout à l'heure, sur le signe des temps, l'Esprit Saint qui nous apprend à lire les signes des temps. Il faut savoir que l'expression signe des temps au plan biblique renvoie à un jugement sur les temps, le temps présent et non au nom aussi de l'imminence de la fin des temps. Donc on trouve cela dans Luc 12, 54 à 59 et puis Matthieu 16, 2 à 3. Dans ce jugement, est le discernement des signes de l'accomplissement des temps messianiques. Citation. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Ça, c'est Marc 1, 15. Et après 1965, le discours sur l'Église sur les signes des temps est enrichi par l'apport du Concile Vatican II dans la constitution dogmatique Gaudium et Spes et le Directoire général pour la catéchèse publiée en 2012. Alors dans le premier texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous est dit ceci. L'Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Il importe donc de connaître et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses attentes, ses aspirations, son caractère souvent dramatique. Voyez donc ce que le Concile nous dit sur les signes de temps. En fait, il faut les scruter et les interpréter. Et ça, c'est une nécessité vitale pour l'Église. Et donc, se soustraire à ce devoir, c'est prendre le risque de manquer un devoir favorable, un moment favorable offert par Dieu pour répondre aux défis de l'urgence missionnaire posée à l'Église. On comprend alors la forme impérative du langage utilisé par le concile. Une église située en dehors de son temps est une église en marge de la marche de l'histoire. Cette église est indifférente aux événements constituant la trame de cette histoire. Elle peine à comprendre le monde, à initier un dialogue avec le monde, de manière à être en capacité de repérer au-delà des événements dramatiques. On pense ici, hein, à la pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation des prix. Il faut aller discerner au-delà de tout cela les attentes et les interrogations de nos contemporains, appelant une réponse à partir de l'Évangile. Donc le discernement de l'Église sur la société a forme d'un discernement évangélique. Nous ne sommes pas ici des spécialistes de l'analyse sociologique, ce n'est pas notre travail. Mais quel est le discernement, le regard que Dieu pose sur la société dans laquelle nous sommes? La foi chrétienne est un critère donc interprétatif qui est non exhaustif. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, c'est le directoire général pour la catéchèse qui fournit d'autres critères pour lire et interpréter les signes des temps. Voici ce que ce directoire dit. La voix de l'Esprit que Jésus par le Père a fait parvenir à ses disciples se fait entendre aussi à travers les événements de l'histoire. Dans les mutations de la situation actuelle et dans les motivations profondes des défis lancés à l'évangélisation, il faut découvrir les signes véritables de la présence et du dessein de Dieu. Oui, cette analyse doit s'effectuer à la lumière de la foi, avec une attitude de compassion et de miséricorde. Donc, vous voyez qu'il ne s'agit pas d'abord de condamner de tout azimut le monde, mais de pouvoir avoir un regard de compassion pour discerner les appels de Dieu dans ce monde-là. Avec l'aide des sciences humaines hein, aussi, quand même, parce qu'il ne faut pas seulement penser qu'on peut analyser sans passer par les sciences humaines. Donc, toujours, ces sciences humaines sont toujours nécessaires. L'Église cherche à découvrir le sens de la situation actuelle à l'intérieur de l'histoire du salut, dont ses jugements sur la réalité sont toujours des diagnostics en vue de la mission. Alors, comme je dis, en vue de la mission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la collaboration avec les sciences humaines, elle doit respecter l'ordre, leur ordre propre. Elle prémunit l'Église du risque d'avancer en mur dans la culture avec la seule clé de compréhension du monde, la parole de Dieu. L'expression « signe des temps » est un concept non homogène. À cause de son ambivalence. Les recommençons. Vous allez m'excuser parce qu'il y a des gens qui m'appellent alors que je suis en train de vous parler. C'est ça qui est un peu embêtant. Donc, voilà. Je disais donc que l'expression que nous utilisons comme signe des temps ici, il ne faut pas la prendre comme une expression qui est univoque. Elle est ambivalente, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs significations. Donc, comme elle a plusieurs significations, il faut la voir dans une certaine diversité. Voilà. Comme elle est non homogène. On va dire qu'on va prendre, je dirais, deux exemples pour expliquer comment il y a un signe des temps qui est à interpréter dans notre société aujourd'hui et qui dit que l'Évangile a plus que jamais le vent en poupe. On va dire aussi que il nous faut nous concentrer sur ces deux signes que j'ai repérés pour comprendre comment, au-delà des situations dramatiques, au-delà des choses qui mettent à mal notre expérience, l'Évangile est bonne nouvelle pour nous. Alors j'ai choisi d'analyser comme signe des temps, hein, pour notre temps, les recommençants à croire et les catéchumènes. Pourquoi j'ai choisi ce signe des temps? Parce que vous le savez, tous les indicateurs du christianisme sont en baisse, vous le savez. Mais ces deux-là, les gens qui reviennent à la foi et les gens qui demandent, qui ont été baptisés bien sûr, et qui ont laissé toute pratique et qui reviennent à la foi, ou alors les gens qui n'ont jamais été baptisés, qu'on appelle les catéchumènes, les adultes, ils reviennent nombreux à l'Église. Et nous ne pouvons pas nous arrêter au seul fait qu'ils sont une chance pour une Église en temps de crise. On doit se demander, ces personnes qui sont un don de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit à nous et à l'Église, à la société, à partir de ces personnes-là? En nous les envoyant, qu'est-ce que Dieu nous dit? en nous envoyant de nouvelles personnes, à l'heure où les bancs sont vides, à l'heure où il n'y a pas beaucoup de gens à croire. Comment on interprète ce signe des temps-là? C'est ça la question. Voilà. Donc, frères et sœurs, nous allons regarder un peu pour ce qui est, par exemple, de ceci, des recommençants, des catéchumènes. Je pense qu'on peut voir, par exemple, qu'ils sont un signe qui est un signe situé à des endroits où se joue un avenir pour la foi chrétienne dans la société. Qu'est-ce que j'entends par un signe situé? C'est-à-dire que eux, ils viennent des endroits où nous-mêmes, nous ne pouvons plus y aller, où nous ne sommes pas. Ils viennent des endroits différents de la société. Et de là où ils viennent, ils nous disent qu'il y a un avenir de la foi chrétienne quelque part, dans ce lieu d'où ils viennent. C'est pour ça qu'ils viennent à nous. Et le signe des recommençants et des catéchumènes est un signe qui est appelant. J'ai appelé un signe appelant parce que c'est un signe qui montre que les gens ont abandonné la foi chrétienne comme un vieux vêtement, et puis d'un jour ou à l'autre, il redécouvre sa pertinence. Cette foi chrétienne devient une question et elle redevient intéressante et répond même à leurs questions. Alors, vous avez vu que les raisons pour lesquelles les gens étaient partis, elles contiennent les raisons d'un possible retour. Autrement dit encore, les gens qui sont partis, ils ont transformé les difficultés qui pourraient les empêcher de revenir, les difficultés qui pourraient les empêcher de persévérer dans la foi, ils ont transformé les difficultés en appel à croire autrement. C'est ça que j'appelle un signe qui est un signe appelant. Appelant. Il appelle à transformer les difficultés à croire en appel à croire autrement. Enfin, le signe de recommençant aussi peut être un signe qui réinterroge l'Église et ses pratiques, parce qu'il ne suffit pas d'accueillir les gens qui arrivent nouvellement. Les gens arrivent et ils bousculent notre Église dans certaines manières de faire, parce qu'ils n'ont pas toujours été avec nous. Et s'ils bousculent, ce n'est pas forcément mauvais. C'est pour cela que je dis que ça réinterroge. Ils nous font sortir de cette manière de vivre des choses de manière habituelle, sans poser des questions. Donc, l'accueil fait aux nouveaux venus et une interpellation, fait aux nouveaux venus, apporte une interpellation aux chrétiens pratiquants et à l'Église. Voilà. Donc c'est ça qui justifie, chers frères et sœurs, que je parle d'un signe de temps que nous avons analysé, parce que je constate qu'on peut accueillir ces nouvelles personnes sans se rendre compte que c'est l'Esprit qui les suscite et les envoie à nous. Donc je reviens rapidement sur ce que j'ai appelé un signe de temps situé. Il faut savoir que le signe de recommencement est situé à des endroits où se joue un avenir pour la foi chrétienne dans une société sécularisée. Alors dans ces endroits-là, je pense que je m'en tiens seulement à un fait, c'est quoi? C'est tout ce qui touche l'affaiblissement de la grâce baptismale. Parce que quand les gens arrêtent de pratiquer, d'être croyants et de venir à l'Église, la foi chrétienne est déjà affaiblie en eux. Et le signe de recommencement, il peut permettre de comprendre les baptisés éloignés, en particulier ceux qu'ils ont comme allergie par rapport au christianisme. En fait, je suis en train de dire que il faut changer de regard sur l'allergie que nos contemporains ont par rapport à notre foi chrétienne. En fait, les gens qui sont partis, dont les gens qui sont baptisés et qui sont éloignés, qui sont partis et qui reviennent à la foi chrétienne, ils montrent qu'ils ont dépassé l'allergie que nos contemporains ont par rapport à notre foi chrétienne. Ils ne sont plus dans l'allergie que nos contemporains ont par rapport à notre foi chrétienne. Il y a un au-delà de cette allergie. Voilà pourquoi je dis qu'ils nous apprennent à comprendre pourquoi d'autres sont en allergie par rapport à notre foi chrétienne. Vous avez compris que quand je parle d'allergie, vous avez dans notre société, dans vos familles, des gens à qui, dès que vous prononcez le nom de foi de Jésus, ou ils savent que vous êtes chrétien, ils sont indifférents ou ils prennent cela mal. Ils deviennent allergiques. Donc, il ne faut pas juger ces gens-là. Il faut comprendre que si vous regardez bien de près comment se comporte, comment est le chemin des gens qui reviennent à la foi chrétienne, vous allez comprendre l'allergie que nos amis ont pour notre foi chrétienne. En fait, je peux donner une indication ici. L'évangile par lequel les gens qui sont partis, les baptisés éloignés, ils ont eu un contact avec la foi chrétienne, un contact originaire, a finalement été réduit à des habitudes sociales. Ce n'est pas un évangile qui a une inquiétude existentielle. Ce n'est pas un évangile qui remet en question leur vie. C'est quelque chose qui sont de l'ordre d'une coutume. Et forcément, avec ce genre de choses, les gens ne peuvent qu'une fois qu'ils sont baptisés, ils s'en vont. Alors, qu'est-ce que notre Église peut apprendre de tous ces gens qui sont partis? C'est ça que j'appelle le signe des temps. C'est-à-dire arriver à trouver le positif dans ce qui semble négatif. Alors, l'Église et la foi chrétienne ont beaucoup à apprendre des gens qui sont partis et qui reviennent. L'Église a une dette à l'égard des baptisés éloignés. Elle ne leur a pas donné ce dont ils étaient en droit d'attendre d'elle pour durer dans la foi. Là, je dis ça, c'est parce que certaines personnes, quand on les baptise, on ne les prépare pas au sacrement. On ne leur donne pas le nécessaire. On se contente de faire vite et peut-être mal les signes, poser mal les signes religieux, sans s'inquiéter d'une bonne préparation, mais aussi de s'intéresser aux questions que ces personnes portent, mais aussi de s'intéresser sur ce que fait cette foi dans leur vie. Est-ce qu'ils ont d'ailleurs donné une réponse à cette foi avant de les baptiser? C'est ça que j'appelle le fait de pouvoir tout simplement prendre des personnes sans tenir compte que la foi transforme leur vie. Donc, l'Église ne leur a pas donné ce dont ils étaient en droit d'attendre d'elle pour durer dans la foi. Cependant, c'est moins le procès de l'Église que la solidarité baptismale entre tous les baptisés qui est attendue ici. Vous voyez donc que les recommençants et les baptisés ont en commun l'allergie par rapport à certaines formes d'expression de la foi chrétienne. Vous avez vu, je parle des formes d'expression de la foi chrétienne trop liées ou pas assez ancrées dans le contexte historique ou le contexte biblique. Donc, vous voyez que certaines formes, ce dont les gens fuient, ils mettent en question, ils abandonnent. Parfois, ce n'est pas la foi chrétienne qu'ils abandonnent. C'est ce qu'on leur a transmis comme foi chrétienne, ou soit dit foi chrétienne, qui n'en était pas. Le christianisme, donc, est présumé ennuyé et dépassé par certaines personnes. Ces préjugés mettent l'Église dans l'inconfort, on est d'accord. Elle est contrainte de sortir de l'auto-justification et du déni de la crise qui l'affecte durement. Donc, il faut reconnaître la légitimité de cette allergie et ça peut conduire l'Église à prendre sa part des responsabilités dans son auto-déchristianisation. Derrière cette allergie que je viens d'évoquer il y a un instant, il y a la volonté de dépouiller l'image de Dieu des masques de puissance et de fatalité dont l'histoire, fut une scène, a pu l'affubler. Alors, le doute sur l'aptitude de la foi chrétienne à répondre aux questions existentielles, la mise en cause de l'infantilisation des baptisés par une compréhension appauvrie de la figure chrétienne de l'enfant spirituel, ou même la récalcitrance de la liberté du sujet blessé par le péché malgré la prévenance, la grâce baptismale, la grâce de Dieu, sont des choses qui expliquent bien comment le sujet ici, la personne qui veut être baptisée, est une personne, ou qui revient à l'Église, est une personne avec qui on doit composer avec sa liberté. Parce que ce n'est pas facile. Les gens ne reviennent pas comme des moutons. Il faut prendre en compte aussi les résistances qui sont en eux. Donc, comment est-ce que l'Église, dans son rapport avec la société et à ses membres, est-elle transformée par cette allergie? C'est finalement cette question-là qui est posée. L'Église, il y a des gens qui sont allergiques, mais comment nous faisons avec cette allergie-là? L'Église est devenue une institution parmi tant d'autres. Elle est dominée par une cure de discrétion. Vous voyez, vivre dans la foi dans ce contexte d'allergie, ça nous fait discerner que nous sommes une institution comme une autre désormais et que nous devons avoir une cure de discrétion d'autant plus que les affaires de mœurs dans l'Église font que nous ne pouvons pas parler très fort parce que nous n'avons pas donné exemple. Et nombre de nos contemporains sont devenus des baptisés éloignés, qui ont pris la distance, non pas de gaieté de cœur, mais à leur corps défendant. Ils en sont venus à représenter le christianisme comme une entrave dont il faut se libérer pour être heureux. Vous avez compris que toutes les affaires qui se sont passées dans l'Église, c'est de ça qu'il s'agit ici-là. Ça a fait en sorte que les gens ont quitté. La pandémie a fait en sorte que les gens sont partis de l'Église. Voilà pourquoi je dis qu'il faut analyser les signes des temps. Parce que vous avez remarqué ou pas que certaines personnes sont parties de l'Église avec la pandémie. Quand on a fait des messes en visio, et ces personnes ne sont plus jamais revenues. D'autres se sont accommodés au fait de vivre la messe à la télé. D'autres encore se sont accommodés finalement de ne plus venir puisqu'ils ne voient même pas l'importance d'y aller. Et analyser ce signe des temps que sont les recommençants, c'est chercher comment aller rejoindre ces personnes-là. C'est de ne pas nous habituer à l'absence des frères et sœurs qui étaient avec nous et dont la pandémie est passée par là, ils ne sont plus là. Et dont les abus, les affaires sont passées par là, ils sont partis. Voilà ce que j'appelle analyser les signes des temps pour comprendre l'allergie que les gens ont par rapport à notre foi chrétienne. Alors, chers frères et sœurs, donc, en conclusion de cette partie, l'allergie des recommençants par rapport au fait chrétien témoigne du courage et de la liberté de tracer leur chemin spirituel, souvent au prix de profondes refondes de leur représentation, la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes, du monde, de Dieu, du Christ et de l'Église. Donc, les questions posées aux recommençants, par exemple, par la redécouverte de la foi chrétienne, sont aussi celles que le nombre de chrétiens se posent. Je veux par là dire que quoi ? Je veux dire que les gens qui quittent l'Église ou les gens qui reviennent comme recommençants, ils se posent les mêmes questions que certaines personnes qui continuent de croire et qui sont pratiquants et qui n'osent pas se les poser. Et ils nous apprennent à oser nous poser les bonnes questions. Parce que vous avez bien compris, si on croit comme des moutons d'épanouche, sans nous poser des questions, un jour ou l'autre, nous abandonnerons la foi chrétienne comme un vieux manteau qu'on a délaissé. Donc un courage est nécessaire à toutes ces personnes que je viens d'évoquer pour repenser leur représentation religieuse, leur conception de l'autonomie des réalités terrestres ou encore leur lien de fraternité avec les non-croyants ou avec les autres croyants ou même avec les rites que nous pratiquons. Donc vous avez compris que cette première partie, c'était de pouvoir nous dire que l'allergie que nos contemporains ont par rapport à notre foi chrétienne nous pousse à non pas à désespérer et de dire la foi chrétienne, plus personne ne croit, mais plutôt à questionner ce que nous avons comme représentation de Dieu, représentation de nous-mêmes, représentation de l'Église et de ce que nous donnons à voir de Dieu aussi. Et c'est comme ça que nous ouvrons des brèches pour commencer à rejoindre les autres. Alors, nous allons prendre un deuxième temps, qui est celui où j'ai dit aussi que je vais analyser le signe de recommençant comme un signe appelant. Parce qu'il faut bien se dire que les signes des temps, comme on a dit, on les repère. On a dit les recommençants, les catéchumènes sont des signes des temps suscités par Dieu dans un contexte difficile. Il faut donc analyser, interpréter ces signes-là. Je les ai analysés comme un signe situé. Maintenant, je l'analyse rapidement comme un signe appelant. Qu'est-ce que j'entends par signe appelant ? C'est-à-dire les baptisés éloignés. C'est-à-dire les gens qui ont été baptisés et qui, tout d'un coup, on ne les voit plus. Ils sont persuadés d'avoir fait l'expérience négative que l'Évangile que nous confessons répond à côté de leurs aspirations profondes. Et voilà que ces personnes-là osent de nouveau croire en Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles osent de nouveau croire en Dieu ? C'est que le signe de recommençant est devenu un signe appelant. C'est-à-dire que il y a quelque chose en eux qui est plus fort et qui les appelle, ce qui paraissait pouvoir légitimer un abandon de la foi chrétienne a été transformé en possibilité pour croire autrement. Ce qui faisait que, légitimement, il faut qu'on abandonne la foi chrétienne, c'est devenu une possibilité pour croire autrement. Ils ont transformé l'obstacle, la difficulté, en possibilité de croire autrement. Ils ne se sont pas laissés enfermer dans l'obstacle. En gros, aucun éloignement par rapport à Dieu n'est jamais définitif. Et ce Dieu, et ce que Dieu a fait dans le baptême est ineffaçable. C'est quelque chose qui est toujours actuel. Même si les personnes ne croient plus, c'est toujours là. Et c'est réel, c'est effectif. Et même si c'est devenu inactif, un jour ou l'autre, il y a une reviviscence du baptême. Voilà ce que j'ai appelé un signe des temps, un signe des temps appelant. Vous avez compris que ça veut dire aussi que nous devons tous être des gens qui font signe aux autres. Nous ne devons pas cantonner les gens dans l'identité du non-pratiquant, l'identité d'athée, l'identité de je ne sais quoi. Être prêt à jeter les filets à tout moment, être prêt à faire feu avec tout bois, être prêt à saisir toutes les occasions pour que ces occasions ne soient pas des occasions manquées, mais des occasions pour dire l'amour de Jésus ou faire signe que laisser Dieu se servir de nous pour faire signe aux autres qui ne sont jamais tant que ça éloignés. personne ni tant que c'est éloigné. Et je suis rendu maintenant au signe de recommençant pour l'Église qui est le signe réinterrogeant. Autrement dit, les recommençants comme un signe d'étant réinterrogeant l'Église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les recommençants, le signe de recommençant est réinterrogeant pour l'Église et les chrétiens pratiquants, dans la mesure où ceux qui arrivent, ils sont porteurs d'une grâce prophétique. Comme Olivier le disait, une verdeur prophétique, ils en sont porteurs. Et cette verdeur prophétique, elle réinterroge ce qu'on a toujours fait ainsi ou comme cela. Elle réinterroge les pratiques, elle réinterroge les formes d'évangélisation mises en avant, parfois qui sont stériles, parfois qui fonctionnent bien, mais parfois elles n'ont plus d'âme. Or, les recommençants ont cette verdeur prophétique qui fait que ils ne peuvent pas se contenter. C'est comme du vin nouveau dans les vieilles outres. On n'est pas en train de dire que les anciens chrétiens ou les chrétiens qui les ont accueillis, qui ont perduré et fait perdurer l'Église, sont des vieilles outres. Non, on est en train de dire, eux, ils ont besoin des recommençants comme les recommençants ont besoin d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'urgence, il y a ici donc quelque chose qu'on pourrait appeler l'urgence d'une seconde annonce. Pas seulement pour ceux qui sont loin, mais pour ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. Voilà ce que le signe des temps des recommençants, en ce qu'il est réinterrogeant, est important pour l'Église. En fait, la prise de conscience des enjeux d'une seconde annonce de l'Évangile a été lente, difficile et progressive dans l'Église. La redécouverte de la foi chrétienne a conduit les chrétiens, ou le conduit les recommençants, à remanier leur propre compréhension, on a dit, d'eux-mêmes, de Dieu, du Christ et de l'Église. Est-ce qu'on peut envisager que pareille situation pour l'Église, lorsqu'elle s'ouvre aux recommençants, lorsqu'elle accueille ce signe de temps, est-ce que l'Église est prête à faire le chemin que les recommençants ont fait, à remanier aussi sa manière de penser Dieu, penser le Christ, se penser elle-même comme l'Église, et penser sa mission, penser le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la réception des recommençants en Église est un acte de conversion à la nouveauté de Dieu et à sa liberté. Les recommençants n'étaient pas prévus dans le plan, les plans pastoraux multiples de l'Église. C'est Dieu qui choisit qui, en fonction du désir de la personne, mettre en marche pour redécouvrir la foi chrétienne et envoyer dans telle ou telle communauté chrétienne. Donc, cette réception des recommençants pose cette question. L'Église est en relation avec qui? L'Église, elle est en relation d'abord, avant tout, avec Dieu, de qui elle se reçoit, vie du don qu'il lui fait, et aussi avec le monde où Dieu l'envoie. Mais il peut arriver que, dans son cheminement historique, l'Église perçoive le don de Dieu comme une prérogative à faire valoir. Cette prétention instaure un rapport d'extériorité entre le don de Dieu, qui la constitue, et l'Église elle-même. Dès lors, coupée de ce don de Dieu, l'Église est une communauté centrée sur elle-même et détournée de sa mission d'annonce. Ce décalage pose cette question. L'amitié des baptisés éloignés fait-elle défaut aux communautés chrétiennes? Si dans les discours la réponse est à cette question est positive, en revanche, dans la pratique, il en est tout autre. Les énergies déployées jusqu'à présent pour enrayer la lente érosion de la foi chrétienne n'ont pas renversé la tendance. Que des discours sur la nouvelle évangélisation, que des discours. Et pourtant, la tendance ne se renverse pas. Il continue toujours de perdre. L'érosion de la foi continue de plus belle. Au contraire, malgré la répétition des discours sur la nouvelle évangélisation, rien n'y fait. L'hémorragie continue. Alors, dans son discours en Allemagne, en 2011, aux catholiques engagés dans l'Église et la société, le pape émérite Benoît XVI disait ceci. Depuis des décennies, nous assistons à une diminution de la pratique religieuse. Nous constatons une croissante prise de distance de la vie de l'Église d'une partie notable des baptisés. J'ai alors la question, est-ce que par hasard l'Église ne doit pas changer? Est-ce que par hasard, dans ses services, ses structures, elle ne doit pas s'adapter au temps présent pour rejoindre les personnes d'aujourd'hui qui sont en recherche et dans le doute? Vous voyez maintenant, chers amis, pourquoi j'ai dit il nous fallait analyser les signes des temps pour comprendre la nouvelle et la mission de l'Église. dans le temps où nous sommes. C'est ce que dit le pape Benoît XVI ici. Donc, ce n'est pas la baisse, tant la baisse des indicateurs chiffrés du christianisme qui fait problème, mais la difficulté de l'Église à répondre à sa mission d'annonce. Oui, répondre à sa mission d'annonce. À l'origine de cette situation, nous citons le manque de préparation de l'Église à s'ouvrir aux valeurs de la modernité. Il faut bien le dire. Analysant la situation de cette Église dans un contexte de triomphe des Lumières, il y a le père Conga qui a écrit ceci. Pour une grande part, la crise présente de l'Église vient de ce qu'après un long, trop long refus, les catholiques s'ouvrent aux Lumières et accueillent bien des apports. Donc, bien des apports, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'influence des valeurs de la modernité sur l'Église et la manière de vivre la foi chrétienne par les baptisés a comme été appréciée en deçà de sa valeur. Donc, je vais par là dire que quelles sont ces valeurs de la modernité? Vous savez, la liberté, le respect du sujet, ou encore même tout ce qui touche l'esprit critique, tout cela, ce ne sont pas des choses négatives en elles-mêmes. Donc, un excès de rupture par rapport au monde a des conséquences néfastes sur la constitution de l'identité chrétienne et l'annonce de l'Évangile. Un excès de rupture, c'est-à-dire que si on veut tellement marquer la rupture en se constituant comme une citadelle assiégée, on va forcément avoir des conséquences néfastes dans la manière dont se constitue notre identité de chrétien, parce qu'on va être des êtres qui vivent en autarcie. Or, nous sommes envoyés au monde. Donc, il s'est forgé chez les chrétiens la représentation d'un modèle d'Église auto-centré, chez ces chrétiens-là, la représentation d'un modèle d'Église auto-centré dont la forme pyramidale maintient le baptisé sous tutelle, dans une tranquille assurance. Et oui, une tranquille assurance, comme s'il n'était pas inquiété de voir l'Église être vidée, ou inquiété de voir de nouvelles personnes qui étaient baptisées hier qui arrivent. C'est ce manque d'inquiétude qui fait que cette tranquille assurance doit aussi être critiquée. Vous voyez, analyser les signes des temps, c'est se laisser troubler, déranger, provoquer par cette tranquille assurance qui ne doit plus avoir lieu dans l'Église. Le témoignage chrétien attendu de ces baptisés est qu'à la suite du pape Benoît XVI, ils prennent leur part de responsabilité dans l'auto-déchristianisation de l'Église. Il faut le dire, nous-mêmes, nous créons la désertion dans l'Église. C'est pour ça que les bancs sont vides. Si on ne reconnaît pas cette responsabilité, nous créons aussi que nous créons la désertion, on risque de croire que les bancs se vident par eux-mêmes. Donc, une conception minimaliste de la différence chrétienne, en revanche, est également un frein pour une annonce renouvelée de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on ne doit pas marquer des ruptures par rapport à la société. L'Église doit être en diapason avec la société. C'est oublier que l'Église est une force de contestation pour le monde, mais aussi pour l'Église elle-même. Donc ici, la conséquence, c'est qu'on crée un défaut de rupture par rapport à la société. Et là, l'Église devient une organisation comme une autre. Or, ce n'est pas ce qui est attendu de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'auteur de la lettre aux catholiques de France écrit ceci à ce sujet. La crise que traverse l'Église aujourd'hui est due, dans une large mesure, à la répercussion dans l'Église elle-même et dans la vie de ses membres d'un ensemble de mutations sociales et culturelles rapides, profondes, qui ont une dimension mondiale. Nous sommes en train de changer de monde et de société. Or, par toute son histoire, spécialement en Europe, l'Église se trouve assez profondément solidaire des équilibres anciens et de la figure du monde qui s'efface. Non seulement elle y était bien insérée, mais elle avait largement contribué à sa constitution, tandis que la figure du monde qu'il s'agit de construire nous échappe. Voyez, chers frères et sœurs, ici, l'auteur de la lettre aux catholiques de France nous dit que ce n'est pas facile de reconnaître que nous sommes nous-mêmes artisans de la désertion dans l'Église. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle nous vivons, nous avons constitué à faire émerger cette société-là. Donc là, mettre en question, c'est nous mettre en question nous-mêmes, et ce n'est pas facile. Donc les conséquences de ce défaut de rupture sur l'évangélisation concernent la tiédeur et le désintérêt pour la mission. Alors je fais appel ici à un sociologue qui s'appelle Marcel Gaucher, donc qui est sociologue, qui dit ceci parlant de la société sortie de la religion. Il décrit en ces termes le contexte sociologique de cette mission d'annonce de l'Église. Alors Marcel Gaucher dit ceci. Le déclin de la tradition se paye en difficulté d'être soi. la société d'après la religion chrétienne, donc, est une société psychiquement épuisante pour les individus. Vous avez bien compris que on est en train de dire ici que le contexte dans lequel nous vivons notre foi est un contexte difficile qui est épuisant, affectif et psychiquement épuisant. Ça rend les individus épuisants. Baptismal et le langage selon lequel ils sont formulés ne parlent plus à l'homme contemporain. Comment évangéliser les personnes qui veulent devenir chrétiennes tout en gardant leur liberté et leur esprit critique? Vous avez compris que quand on analyse les signes du temps, que sont les recommençants par rapport à notre société, et quand on dit que ces recommençants sont un signe du temps réinterrogeant les pratiques de l'Église, nous sommes en train de nous mettre nous-mêmes en question dans nos pratiques d'évangélisation. Alors, l'Église, en d'autres termes, est la première destinataire de l'Évangile qu'elle annonce. En fait, elle a un peu oublié cela. Alors, dire que les recommençants sont un signe réinterrogeant, c'est dire que l'Église doit se savoir et se vivre comme première destinataire de la parole qu'elle annonce. Donc, le signe des recommençants la réinterroge sur sa capacité à se laisser transformer par la parole qu'elle annonce. Et ça, c'est important. En conclusion de cette première partie, de cette dernière partie, donc, je dirais que les recommençants appellent les chrétiens pratiquants à témoigner de la foi chrétienne par des actes et des paroles qui tranchent de manière attestataire, mais sans être pour autant sectaires. On le dira en des termes simples, ils appellent les baptisés à vivre leur grâce prophétique. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Si on dit que le signe des temps doit réinterroger les chrétiens de toujours, les chrétiens et les pratiques de l'Église, c'est pour que la dimension prophétique soit bien soulignée. Alors, passons donc à une grande conclusion, puisque nous avons encore quelques 8 minutes, je crois, ou quelques 3 minutes, puisqu'on m'a dit que c'est à 16h50. Qu'est-ce que j'ai voulu dire un peu dans cette discussion? Je voulais dire un peu que, en fait, l'Église catholique ne peut pas se contenter de répondre aux nouvelles demandes pastorales, par un rappel des personnes au bon souvenir d'un passé chrétien lointain tombé en désuétude. Elle a suscité un intérêt nouveau pour la spiritualité et une demande d'aide pour reconstituer la foi chrétienne. Il s'agit de faire signe aux recommençants potentiels, de créer des passerelles entre l'Église et le milieu sécularisé d'où viennent les recommençants. Et ça me semble important, chers amis, de comprendre que nous sommes dans une période où il faut donner le goût de Dieu comme les recommençants donnent le goût de croire naturellement à ceux qui les entourent. Et ça me semble important aussi. Et tout ce que j'ai dit là, il y a deux modèles d'église en fait qui s'affrontent. Il y a un modèle d'une église qui est à son crépuscule, l'autre qui est à ses débuts. Il y a un prêtre qui s'appelle Denis Duval, qui est de l'Emmanuel, qui était le jeune de l'évangélisation, qui dit ceci à ce sujet. Les pays de vieille chrétienté ont maintenu une mémoire culturelle imprégnée de références chrétiennes jusque vers la fin des années 1970. Dans son action évangélisatrice, l'Église, s'appuyant alors très largement sur ce socle de nos jours, s'appuyait alors très largement sur ce socle de nos jours, la culture commune ne le permet plus. Cela signifie que les communautés d'Église sont appelées à développer en leur sein ce que le monde ne leur garantit plus, c'est-à-dire une mémoire, une identité, une culture, un art de vivre humainement consistant et chrétiennement unifié. Donc il faut repartir en fait du cœur de la foi chrétienne qui est le kérigme. Voilà, chers amis. Toute cette critique, le signe des temps réinterrogeant, ça nous amène à repartir du kérigme. Et je vais vous dire ce que le pape François dit à propos du kérigme, parce qu'il faut bien entendre ce qu'il dit pour pouvoir comprendre qu'on parle ici de quelque chose qui touche l'homme contemporain, parce que c'est tellement bien formulé. Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie pour te sauver. Et maintenant, il est vivant à tes côtés, chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier et pour te libérer. Je répète, Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie pour te sauver. Et maintenant, il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier et pour te libérer. Voilà la bonne nouvelle que Jésus nous a donnée et qui est retraduite par le pape François en tant que kérigme, c'est-à-dire le cœur de la foi chrétienne. Vous avez compris que toute la réflexion qu'on a menée était pour arriver à dire que si le signe des temps nous interroge, des recommençants nous interroge, réinterroge, c'est pour que finalement nous puissions revenir à l'essentiel qui est le cœur de la foi chrétienne, qui est le kérigme.
Chers auditeurs, c'était notre émission Viens Esprit Saint. Nous étions avec le frère Joseph-Marie. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.